Ce matin, nous parlerons bien sûr de Noël et nous voulons célébrer particulièrement ce jour avec un message adapté. Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce que Jésus nous a demandé de célébrer Noël? Vous avez certainement une réponse à cette question. Par contre, il nous a dit, par rapport à sa mort, il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il nous a clairement parlé qu'il faut se souvenir de son œuvre de rédemption, de sa mort et de sa résurrection, oui. Mais Noël, faut-il en faire grand cas? Un pasteur a écrit cette semaine quelque chose que je vais vous lire. Un certain nombre de, entre guillemets, vrais chrétiens, sous forme de reproches, me demandent comment se fait-il que nous célébrons Noël alors qu'il s'agit d'une fête païenne. Peut-être que vous ne le saviez pas. Bon, je ne sais pas de quel Noël il parle, mais si c'est du Noël de Jésus, le Christ, dont parle la Bible, alors je dois leur rappeler que les étoiles l'ont célébré, les anges l'ont célébré, les bergers l'ont célébré, les mages l'ont célébré. Alors, si les astres, si les êtres célestes, si les hommes pauvres ou les hommes riches, si les ignorants ou les savants ont célébré Noël, le Noël de Jésus, alors pourquoi veut-on me faire croire que nous ne devrions pas le faire? Plus qu'une date, Noël est un événement que nous célébrons. La nativité nous est rapportée dans deux textes clés du Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Nous avons les deux textes sur la nativité. Et ce n'est pas ces textes-là que nous allons méditer ce matin. Dans les années passées, on a parlé, on a prêché sur Joseph, sur Marie, sur les mages, sur l'aubergiste, sur les moutons. On a prêché sur tout, mais ce matin, on va faire autre chose. D'abord, le Sauveur qui vient, le Seigneur qui vient du ciel sur la terre. Et c'est dans l'évangile de Matthieu, justement, que nous lisons que la révélation dit ceci, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est le nom qui a été donné par le ciel, par le Père céleste. C'est Dieu lui-même qui va choisir le nom du Sauveur. Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu sauve, Dieu sauve. Dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la venue de Jésus, c'est vraiment un événement extérieur qui doit venir sauver. C'est ce que nous allons voir ce matin, c'est le thème. Il faut un élément de l'extérieur pour sauver mon cœur, pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. L'homme ne peut pas se sauver soi-même. Je vais répéter ça parce que vous aviez l'impression de ne pas tout à fait avoir entendu. L'homme ne peut pas se sauver soi-même. Même les meilleures intentions ne suffiront pas à sauver l'âme pour l'éternité. Il faut qu'il y ait une intervention de l'extérieur, de l'extérieur. Il faut que le ciel se souvienne de la terre pour que nous puissions être sauvés. Il n'est pas tout à fait juste de parler de naissance. Ce serait plus correct de parler d'une incarnation. Dieu devient chair, car Jésus existait avant sa venue sur terre. Alors, il y a beaucoup de textes qui nous le montrent, mais entre autres, il dira « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, il existait avant Abraham, et puis en même temps, ce « je suis » fait allusion à l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, « je suis celui qui suis ». Mais c'est surtout le prologue de Jean qui est vraiment très révélateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, rien de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Et la parole, au verset 14, a été faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole éternelle vient et Jésus s'incarne. Dieu s'incarne et Jésus est né. Ce qui est merveilleux dans la venue de Jésus sur terre, c'est ce choix. Jésus choisit de naître. Ensemble avec son Père, ils avaient mis au programme. Et Jésus va dire, « Me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Aucun de nous n'a choisi de naître. Nous sommes les uns et les autres le fruit d'une planification familiale, peut-être, sans doute même. Mais Jésus est venu par la planification du Père et par le choix. Il voulut naître pour pouvoir donner sa vie. Il vient pour donner sa vie pour nous. Maintenant, j'aimerais voir avec vous un texte. Et c'est le commentaire de ce texte qui m'a donné l'inspiration pour ce message de ce matin. Un texte prophétique, parce qu'il y a plusieurs textes prophétiques qui, des siècles avant sa venue, va nous dire que le Fils viendra à partir d'une vierge, naîtra d'une vierge, qu'il naîtra à Bethléem. Et la description de son ministère nous est donnée dans plusieurs textes prophétiques. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans Ésaïe, au chapitre 53. Et nous lirons les versets 1 et 2. Ésaïe 53, 1 et 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Je vais arrêter là ma lecture qui nous concerne ce matin. Je le relis encore une fois, la première partie du verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton qui sort d'une terre sèche ou assoiffée, comme une racine, comme un rejeton, comme une pousse qui sort d'une terre sèche. Et ensuite, Ésaïe chapitre 11, verset 1. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe ou de Jessé, c'est le même nom, et le rejeton de ses racines fructifiera. Le rejeton de ses racines fructifiera. Pour ceux qui connaissent ou qui aiment les chants de Noël et qui comprennent aussi les chants en allemand, vous savez que le répertoire allemand est particulièrement grand et très étendu au niveau des chants de Noël. Et parmi les grands chants traditionnels en allemand, il y a ce chant qui a été traduit en français par « Dans une étable obscure », mais en réalité, c'est le chant « Es ist ein Rose entsprungen ». Et ce chant-là se base sur ce texte. Un rameau va sortir, un rejeton sort de quelque part, d'un milieu hostile, sec. Et ce chant, j'ai regardé un petit peu, ce cantique à l'origine comportait 23 strophes. Et la source la plus ancienne qu'on a trouvée, c'est que dans un recueil était publié, donc ce chant remonte à 1599, un ancien cantique de Noël, 1599. Et ce chant, dans ses 23 couplets, va décrire l'annonce du salut depuis le livre d'Ésaïe, depuis les textes que nous avons lus, à l'arrivée des mages dans les évangiles. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une racine, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comment une petite plante arrive à percer dans un terrain hostile? Vous avez déjà vu des plantes qui sortent parfois du bitume ou qui sortent entre deux pierres et qui s'accrochent ou des arbres qui s'accrochent sur un sol où il n'y a pratiquement rien, mais qui arrivent à s'agripper sur un rocher et qui arrivent parfois à percer des dalles de béton ou la route. Et on est parfois étonné de voir dans quel environnement hostile certaines plantes arrivent à vivre. C'est la puissance de la vie. La nature nous enseigne ces choses. La vie des gens peut ressembler à cet environnement hostile, ce sol inculte, durci par les pas de l'homme, par toutes sortes d'épreuves qui ont laissé un terrain en friche peut-être et ont laissé un sol extrêmement pauvre, sans aucun engrais. Et c'est justement c'est Ésaïe qui va voir cette vision, il va voir cette révélation qu'à un moment donné viendra dans un temps lointain, dans des siècles à venir, viendra une racine, une pousse qui va germer à partir de rien. Elle va percer dans un terrain dur, hostile, un terrain inculte, un terrain qui n'a rien à offrir. Normalement, une plante ne pousse pas dans cette région. Mais elle voit que la racine va monter, le germe va monter et va devenir un véritable arbre puissant. Ésaïe va, dans le chapitre 11, va dire que c'est à partir d'un arbre coupé du tronc de Ésaïe, qui est donc le père de David, à partir d'un tronc qui a été coupé, la promesse d'Israël qui a été donnée pour la royauté et qui a été perdue, qui a été abandonnée, qui a été brisée comme un arbre qui a été enlevé, privé de ses branches, de ses feuilles, etc. Et à partir d'un arbre qui a été coupé à cause de la désobéissance d'Israël, à cause d'Israël qui a perdu, qui a gâché la vocation précieuse qu'elle avait reçue, eh bien, la pousse va néanmoins germer. Le message de Noël, frères et sœurs, le message de Noël, c'est que Jésus vient tel un germe, tel une racine, tel une pousse, tel une faible plante, se positionner, se placer dans un terrain qui ne peut rien lui offrir. Nous allons voir ça. Lorsque Jésus vient, le terrain de son temps, le terrain de son époque où Jésus arrive, pour nous c'est l'an zéro, mais pour Israël c'est 400 ans de silence prophétique. Il n'y a plus de prophète. Ah oui, il y aura Jean-Baptiste. Qui sera le précurseur, qui va être juste avant lui, il va naître 6 mois avant lui. Mais ce silence prophétique va peser lourd et Israël va se demander, « Seigneur, jusqu'à quand vas-tu laisser notre peuple qui a tant reçu, qui a un tel héritage extraordinaire, jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans cette misère, dans ce froid glacial, dans ce désert prophétique, dans ce silence accablant de Dieu, jusqu'à quand ? Ésaïe va dire, « Oh, si tu pouvais ouvrir les cieux et si tu descendais, Seigneur. » Le temps n'est pas un temps fertile, mais c'est un temps stérile. Jésus va arriver en douceur, presque incognito. Et comme ça a été dit la semaine passée, pas de place pour lui nulle part. Il vient tel un rameau fragile, dans une terre ingrate. Le peuple est faible. Les sacrificateurs ne sont plus à leur place, ne sont plus des hommes inspirés. Les prophètes n'existent plus. Et l'attente messianique est très faible. Il existe pourtant quelques personnes, Anne, Siméon, Joseph, Marie, bien sûr. Quelques-uns attendent le Messie, mais globalement, il y a une très faible attente messianique. Le terrain est dur, le temps est sombre. On dirait qu'on est à la fin de quelque chose. De plus, Hérode, ce méchant roi positionné, mis en place par les Romains, cet homme ne va chercher qu'une chose. À peine entend-il que le roi des Juifs va naître, à peine se sent-il déjà menacé qu'il va mettre à exécution son plan funeste pour le faire périr. Et cet enfant, Jésus, va être persécuté dès ce berceau dans lequel il naîtra. La main de Rome est puissante contre ce peuple d'Israël en Judée. Bien sûr, il leur laisse certaines libertés, mais ils sont peu sympathiques et il y a peu d'accueil. Le terrain dans lequel Jésus va venir comme une faible plante qui s'élève d'un sol durci, qui a tellement besoin d'être arrosé par la grâce de Dieu, par le miracle de Dieu. Deuxièmement, si nous voyons l'origine du Messie, nous pouvons aussi dire que c'est un terrain dur, un terrain ingrat, un terrain où rien ne pousse ou pas grand-chose. Si Jésus avait été grec, il aurait pu se comparer, il aurait pu rivaliser avec Socrate, Platon et d'autres grands philosophes. S'il avait été romain, il aurait eu plein d'avantages, mais voilà, il est juif. Oui, le salut vient des juifs. Et ce n'est pas seulement depuis le XXe siècle que les juifs sont persécutés, mais si vous lisez la parole de Dieu, dès l'origine, l'adversaire sait que des juifs va venir le Messie, le Sauveur. Donc il va chercher à exterminer dans bien des époques de l'histoire humaine ce peuple qui amènera, qui est d'abord héritier, qui possède les alliances, les promesses, qui a reçu les prophètes, qui a été béni pour devenir bénédiction pour le monde, mais il n'a pas été reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Le sol dans lequel cette faible plante a émergé était dur, même chez lui. Non seulement l'environnement, même chez lui à la maison. Oui, regardez, pouvait-il tirer un avantage quelconque d'être né dans une famille comme Joseph et Marie? Qu'avaient-ils à lui proposer? Ils étaient modestes, plus que modestes, ils étaient pauvres. Ils ne pouvaient tirer aucun avantage de sa famille. Pas de grand nom, pas de grande fortune, pas d'héritage, pas d'influence, pas de nom royal alors qu'il est le roi des rois. Il n'est pas le prince ardemment désiré d'une famille royale qui attend le prince héritier. Je me souviens combien l'attente royale était importante en Belgique et que le couple royal ne pouvait pas avoir d'enfant et que l'héritier manquait. C'était une angoisse nationale. C'était un problème pour tous les Belges. Pas d'héritier. Et voilà que l'héritier est là, mais il ne vient pas d'une maison royale alors qu'il est le prince de la paix. Voilà le sol qui l'accueille. Ceux qui le reconnaissent, l'appellent le fils de David parce qu'ils ont vu en lui le Messie à venir qui vient de la lignée de David, la lignée royale. Ils l'appellent le fils de David parce que certains le reconnaissent quand même. Et en tout temps, quel que soit le sol dans lequel vous êtes, sur lequel vous êtes planté, il y aura toujours quelque part des gens qui vont croire dans votre témoignage, des gens qui vont écouter votre témoignage. Il ne faut jamais désespérer. Même s'il y en a 20 qui ne vous écoutent pas, il y aura quelqu'un qui va vous écouter, qui a soif, qui est prêt. Alors qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas attendu. Il a été oublié, rejeté, il a souffert, il était seul, il était à part, il était différent des autres. Même dans sa propre famille, il était différent. Il a dû souffrir de cette mise à part, de cette vocation particulière. Mais certains l'ont reconnu. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, vous commencez par la généalogie, car Matthieu qui parle aux Juifs doit prouver que Jésus remonte jusque David et même jusque Abraham parce qu'il faut qu'il soit juif. Il doit être descendant d'Hébreu. Et puis la deuxième généalogie se trouve dans Luc chapitre 3. Et là, vous verrez une autre généalogie différente et qui va remonter. Luc va présenter Jésus comme le fils de l'homme. Donc, Luc va me faire remonter la généalogie jusqu'au premier humain, donc Adam. Il va remonter jusqu'à Adam, dont il est dit fils d'Adam. Et Adam sera appelé fils de Dieu. L'être humain est appelé fils de Dieu. Tu es un fils, une fille du Seigneur. Dieu te destine à cela. C'est ton appel profond et premier. Et Jésus va donc s'identifier à cette lignée généalogique. Il va s'identifier à sa famille, en fait. Il va être le deuxième Adam. Et il est dit dans la parole, dans 1 Corinthiens 15, que tous, comme tous, meurent en Adam, le premier Adam, de même tous revivront en Adam, en Jésus, en Christ, le deuxième Adam. Maintenant, ce que je veux faire ressortir dans cette généalogie, c'est ceci. Dans quel sol Jésus a-t-il été planté? Nous avons vu dans son environnement, nous avons vu le temps dans lequel il était, dans son nom, mais quand il est rattaché à une chaîne généalogique de laquelle on ne peut pas se séparer, est-ce que vous pouvez vous couper de votre chaîne généalogique? Est-ce que vous pouvez scier la branche sur laquelle vous êtes assis, à laquelle vous êtes attaché? On ne peut pas. On fait partie d'une famille qu'on n'a pas choisie. Jésus faisait partie d'une famille qu'il n'a pas choisie. Bien sûr, il est Dieu, il sait toutes choses. Mais qu'est-ce que cela nous montre? C'est que dans cette généalogie, il y a beaucoup d'histoires. Regardez dans cette généalogie, ce n'est pas notre thème, mais ce serait un message intéressant à faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée directe de Jésus? Il y en a des histoires. Il y en a des fameuses. Il y en a du lourd. Il y a du péché. Il y a des catastrophes. Il y a des choses graves. il y a des choses dont on pourrait rougir. Mais écoutez bien, Jésus n'a pas honte de sa famille. Jésus n'a pas honte de sa famille. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir honte de ta famille non plus. Jésus n'a pas eu honte des siens, il n'a pas eu honte de tous ceux qui ont mal tourné, qui ont mal vécu leur vie, qui ont fait des choses graves, qui ont désobéi à Dieu, qui ont fait des scandales, qui ont été à l'origine de scandales. Ils font partie de la famille de Jésus. Le sol dans lequel Jésus est planté, ce n'est pas un sol pur. Ce n'est pas un sol dégagé, ce n'est pas un sol fertile, ce n'est pas un terrain préparé, c'est un sol dur, c'est un sol blessé, c'est un sol endurci, bétonné même par les expériences des uns et des autres. Mais la Bible nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde au milieu même d'un terrain que je n'aurais jamais choisi pour faire naître le Fils de Dieu. Et pourtant, il vient là. Il vient justement là. Il est dit qu'il devait participer à la chair et au sang, qu'il devait mourir pour nous délivrer de la mort, qu'il devait en tout être semblable à ses frères. Jésus s'unit à ses frères dans la souffrance. Jésus s'unit, il vient dans un sol qui est dur et qui n'est pas préparé. Jésus reconnaît ses frères, il n'a pas honte. Regardez maintenant ses disciples. Est-ce qu'il les a pris des universités réputées de Jérusalem ? Non, il les a pris après une nuit de prière en plus. Simples pêcheurs au bord du lac de Galilée, la plupart. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Il ne pouvait tirer aucun avantage d'aucun de ses disciples. S'il avait été entouré des meilleurs, de la fine fleur d'Israël, il aurait pu être promu lui-même en disant « Voyez de qui je suis entouré, je suis le pasteur d'une fameuse équipe. » Mais il avait à côté de lui des gens qui étaient pleins de défauts, pleins d'échecs, qui... Il a dû soupirer bien des fois. Il ne pouvait tirer aucun avantage d'aucun d'eux, ni de Pierre, ni de Jean, ni de Jacques. Par contre, c'est Pierre qui a reçu toute chose de lui. Jésus ne pouvait rien tirer du sol de ses disciples. Mais ses disciples ont tout tiré de lui. Pierre a été transformé par lui, sauvé par lui, libéré par lui, pardonné, gracié par lui. Jésus a tout donné à ses disciples. Il ne trouvait aucun avantage à être connecté à Jacques, Jean, ni même Paul, qui va dire que tout son héritage juif et romain, à la fois, était que de la boue face à Christ. Jésus ne pouvait rien tirer de ses disciples. Sa racine plantée dans ce terrain ne pouvait pas prendre de la sève, du terrain, des minéraux, quelque chose qui lui permettrait de s'élever. Il s'est élevé à partir du ciel. C'est le ciel qui donne quelque chose à la terre. Ce n'est pas la terre qui donne quelque chose au rameau qui vient du ciel. Alléluia. C'est le ciel qui va donner cette plante qui est mise en terre sur un rameau, sur un arbre qui a été coupé ou sur une terre desséchée. C'est uniquement toute la sève du ciel qui va fertiliser le terrain. Il apporte tout lui-même. Ce n'est pas eux qui portent le christianisme, mais la racine les porte. Il ne prend rien de la terre où il est planté et qui ne produit rien, mais tout vient du ciel d'où il vient. Et il va tout mettre dans la terre qui ne vaut rien. Jésus ne vit pas de ce qui est autour de lui, mais c'est lui qui vivifie tous ceux qui sont autour de lui. Il est la vie. Celui qui a le Christ a la vie. Le terrain de mon cœur. Le jour où Jésus nous a touchés, à quoi ressemble le terrain de notre cœur ? Car ce rameau, car cette plante fragile, car ce salut naissant est venu dans un cœur, pour beaucoup d'entre nous qui était un cœur brisé, blessé, fermé, méfiant, incrédule, orgueilleux, fermé, et je pourrais encore allonger la liste. La Bible dit que tous sont pervertis. Aucun ne cherche le bien, pas même un seul, nous dit l'apôtre Paul, au chapitre 3 de Romains. Tous sont pervertis. Mon cœur n'est pas, certainement pas, un terrain accueillant pour le Seigneur.
Peut-être vous dire, mais moi j'ai accueilli le Seigneur. Oui, vous l'avez accueilli parce que Dieu vous a donné la grâce de l'accueil. Dieu a fait le pas, vous a donné la possibilité de la repentance. Ça vient de lui encore, ça. La repentance, ce n'est pas moi qui ai dit, ah Seigneur, je ne suis quand même pas si mauvais que ça. J'ai réussi quand même à me repentir. C'est Dieu qui t'a permis cela. C'est lui qui t'a modelé, qui a touché ton cœur pour que tu sois capable de faire un pas de repentance. Le terrain dans lequel Jésus vient est un terrain dur, inhospitalier. Et nous ne pouvons rien faire si lui ne nous donne pas la vie en abondance. Dans ma chair, je ne vois rien de bon, dira Paul. Tous ont péché, je l'ai déjà dit. Quand nous chantons, comme hier nous l'avons fait, c'est quand même une grâce parce que le Seigneur utilise des tout petits témoignages comme des chants de Noël ou notre petite expression, notre salutation quand nous saluons les gens. Dieu utilise des choses aussi faibles que cela, aussi simples que ça, aussi avec apparemment si peu d'impact comme la naissance de Jésus pour toucher des gens. Quand nous chantions, eh bien, des gens pleurent, des gens sont touchés. Bien sûr, ça leur rappelle des souvenirs. Mais plus que cela, derrière ce message de Noël, il y a quand même quelque chose, non ? Il y a quelque chose. Il y a une force. Il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est le cœur de Dieu qui s'exprime. Je donne ma vie pour les perdus et je cherche aujourd'hui des perdus pour pouvoir les sauver. Et les gens réalisent que leurs cœurs sont inhospitaliers, sont oublieux, négligents. Ah, on se rappelle de Noël. Ah oui, on va penser un peu à Dieu maintenant, alors que je l'ai oublié pendant des mois et des mois. Le terrain des cœurs est dur. Une personne voulait quelque part parler avec nous. C'était une infirmière ou une aide-soignante qui accompagnait les aînés. Elle voulait parler avec nous. Puis finalement, elle dit, en pleurant, elle dit comme ça parce qu'elle réalisait que si je parle un peu plus, je vais pleurer. Et c'est pas maintenant que je dois faire ça. Je dois faire mon travail. Et on voit les blessures des cœurs, des chagrins. À la fin d'année, ça remonte un peu plus à la surface. Mais le Seigneur, c'est comme ce rameau qui est planté dans un terrain délicat, terrain difficile, terrain blessé. Mon frère, ma sœur, le Seigneur vient dans ton terrain, quelle que soit la nature de ton sol, quel que soit l'état de ton cœur, il vient aujourd'hui comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Lorsque j'ai visité à New York le mémorial du 11 septembre, peut-être que vous l'avez déjà visité, certainement plusieurs l'ont fait. Vous savez, quand on s'approche du mémorial, on voit la taille des tours, on voit tous les noms qui sont gravés tout autour. On est silencieux, les gens autour ne parlent pas. On est comme saisi par un esprit de lourdeur et de tristesse face à ce qui s'est passé il y a maintenant 17 ans en arrière. Et là, j'ai fait une photo, malheureusement, je ne vais pas la montrer, mais vous la trouvez facilement sur Internet. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a ce qu'on appelle Survivor Tree, l'arbre de la survie, l'arbre qui a survécu. C'est un arbre qui n'est pas très grand, mais qui est rattaché avec plusieurs cordes pour ne pas qu'il tombe. En fait, cet arbre était à proximité des tours le 11 septembre 2001. Et lorsque ces tours de je ne sais pas combien d'étages se sont effondrées, vous imaginez ces images qui ont tourné en boucle et qui nous ont fait retenir notre souffle. Ces centaines de tonnes de gravats sont tombées sur cet arbre aussi, qui a été complètement dévasté. Il a perdu ses feuilles, bien sûr, ses branches. Il ne restait pas grand-chose. Par contre, lorsqu'ils ont fait le déblayement de tout ça, ils ont trouvé ce petit bout d'arbre qui restait, qui était toujours enraciné. Et ils l'ont déraciné avec beaucoup de délicatesse. Ils l'ont mis dans une pépinière pendant tout un temps pour voir s'il pouvait revivre en n'ayant plus de branches. Et il a reverdi cet arbre. Il a vraiment reverdi. C'est vraiment ce rejeton qui sort d'une terre dévastée. Et pour montrer qu'un pays peut se relever après une catastrophe, et pour montrer à tous sous forme de témoignage que l'on peut se relever après les pires catastrophes, eh bien, ils ont repris cet arbre et ils l'ont planté dans le territoire du mémorial. Et ils ont mis des barrières autour pour ne pas qu'on le touche, parce qu'il reste fragile. Il a été soigné au maximum, mais il est là comme un témoin vivant de ce que le pire peut arriver et la nature peut reprendre le dessus quand même. Mes amis, si la nature peut nous enseigner des leçons pareilles, à plus forte raison, nous qui avons reçu la vie de Dieu, le pire peut arriver, la vie de Dieu va toujours avoir le dernier mot. Alléluia. La vie de Dieu en toi va toujours avoir le dernier mot. Un sol brisé, un sol fermé, un sol piétiné. Vous savez, Dieu reconnaîtra toujours sa racine. Si on a piétiné votre cœur, si on vous a fait mal, ou peut-être si vous avez piétiné les autres. Parce qu'on pense toujours à soi. On dit, j'ai été victime, j'ai subi ceci. Oui, mais d'accord, mais toi, tu n'as jamais fait subir rien du tout aux autres. Les autres, personne n'a souffert de ta part, ni en parole, ni en acte, rien. Nous sommes tous coupables. Il faut le reconnaître. Je disais à une personne qui avait souffert, je disais, Dieu te demande juste de reconnaître la part qui est la tienne. Tu n'as pas besoin de reconnaître ce que tu n'as pas fait. Mais ce dont tu es responsable, reconnais cette part-là. Reconnais-la. Demande pardon pour ça. Et la libération va commencer à agir. Le pardon va commencer à couler. La grâce va commencer à couler. Et sur ce sol qui a été malmené, va commencer, grâce à la puissance de vie qui vient du ciel, va commencer à fleurir un arbre qui s'appelle le fruit de l'esprit, avec une branche qui s'appelle l'amour, une autre branche, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi, la patience. Tous ces fruits vont se libérer, se dégager, parce que la racine a été plantée par Dieu lui-même. Ce n'est pas ta racine, mais c'est la racine de Dieu. C'est le rameau de Dieu qui sort d'une terre desséchée. Et c'est lui qui produit cela. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas tes œuvres à toi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'esprit, mes amis. C'est le fruit de l'esprit. Il y a une image extraordinaire dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 47. Et cette image complète vraiment ce que je viens de dire. On voit dans ce texte le fleuve qui sort de dessous la porte de la maison de Dieu. Et de la maison de Dieu sort un fleuve puissant qui va sortir de la maison de Dieu de Jérusalem et qui va s'en aller dans le désert de Juda, va descendre jusqu'à la mer morte. Et le texte nous dit que la mer morte deviendra vivante. Il n'y a aucune mer dans le monde qui est aussi morte que la mer morte. Il n'y a pas d'eau plus morte que la mer morte, ce n'est pas possible. C'est la mort à l'état pur. Mais lorsque la vie de Dieu vient dans ce qui est mort de chez mort, alors là, la vie, elle va régner. La mort doit reculer. Dans ta vie, mon frère, ma sœur, la mort doit reculer. Nous l'avons déjà dit ce matin. Elle ne peut pas gagner. La vie va toujours prendre le dessus. Je parle de la vie de Dieu. C'est pourquoi ce matin, ouvre-toi à la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie, non pas la survie, mais la vie abondante. La vie abondante par le Seigneur, la vie abondante est là pour nous donner ce dont nous avons besoin. Un rameau qui sort d'une terre assoiffée, un pauvre sol. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Le Seigneur est capable de réparer tout ce qui a été brisé. Je vais devoir terminer avec un texte encore, nous lisons dans Ésaïe, d'abord encore Ésaïe, chapitre 61. Nous lisons quelques promesses qui nous seront une bénédiction. Lisons le ministère du Messie, du germe qui va sortir pour devenir un arbre puissant. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement. C'est ça le terrain dans lequel vient le Messie. C'est ça le terrain, justement. Pour proclamer une année favorable, une année de grâce de la part du Seigneur et un jour de vengeance notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle, regardez comme c'est magnifique, il est question d'une plante, on l'appelle térébin de la justice, plantation de Dieu, plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. C'est une plantation. Tu es une plantation de Dieu. Ce n'est pas ton plan à toi, c'est le plan de Dieu dans ton cœur qui transforme ton cœur, qui te libère et qui donne sa sève spirituelle et divine pour que le cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et c'est là que nous devenons une plantation de l'Éternel. Chapitre 61, toujours verset 10. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de justice. Comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atouts, en effet, comme la terre fait sortir son germe et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Le fruit de tout cela, c'est que tu sois un témoignage pour toutes les nations. C'est pour que le travail de Dieu, à partir d'un terrain inculte, ingrat, endurci, blessé, que sais-je encore, tout ce que je vous ai dit ce matin, que ce cœur soit vraiment vivifié parce que le rameau de Dieu sort à partir de ce terrain-là. Il choisit justement de naître, de venir dans un terrain comme celui-là. Comme celui-là. Et je termine mon message par Ésaïe 41, verset 9. Ésaïe 41, verset 9. « Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre, que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas, sois sans crainte, je suis avec toi, n'ouvre pas des yeux inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main et qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. » Verset 18 encore, je ferai jaillir des fleuves sur les dunes, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je le placerai dans la steppe, le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils reconnaissent, qu'ils observent, qu'ils comprennent ensemble que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël les a créées. Alléluia! C'est la main de l'Éternel qui fait ces choses. C'est l'œuvre de l'Éternel dans ton cœur et dans ta vie qui a fait ces choses. Ça ne vient de nulle part ailleurs. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas les mérites d'une église, ce n'est pas les mérites d'une prédication. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la main de l'Éternel qui fait que nos buissons ou nos terrains arides deviennent un terrain où le Seigneur va planter un jardin merveilleux. Alléluia. Vous êtes le jardin de Dieu.